Radio Prague, les informations.
Les marchés du travail allemands et autrichiens ouverts sans restriction aux ressortissants tchèques à partir du 1er mai. Le chef des sociaux-démocrates émet l'éventualité d'un gouvernement minoritaire soutenu par les communistes et le ministre de l'Environnement reçoit un prix d'anti-écologie. À partir du 1er mai, les citoyens tchèques pourront travailler en Allemagne et en Autriche sans aucune restriction et sans permis de travail spécial. C'est en effet à cette date que prend fin l'expiration du délai autorisé par la Commission européenne pour limiter l'accès au marché du travail des États membres de l'Union. Ce délai de 7 ans avait été demandé par Berlin et Vienne en 2004 lors de l'élargissement vers l'Est de l'Union européenne pour faire en sorte de freiner l'arrivée de citoyens des nouveaux États membres sur leur marché du travail. Dans un entretien au quotidien économique Gospodarske Novene, le chef des sociaux-démocrates, Bohuslav Sobotka, a émis l'idée qu'un gouvernement minoritaire soutenu par les communistes était une option acceptable pour lui si les prochaines élections le permettaient. Il a toutefois souligné que ce n'était pas l'objectif de son parti de gouverner avec le parti communiste. En 1995, le parti social-démocrate avait émis un décret interne interdisant de former une coalition avec le PC tchèque à un niveau national. Les deux partis gouverne cependant depuis dans des formations locales. Le ministre de l'Environnement, Pavel Drobil, a reçu un prix appelé Ropak pour sa politique anti-écologique en 2010 ainsi qu'une perle verte pour ses déclarations anti-écologiques, des prix remis chaque année par un groupe d'écologistes tchèques, les Enfants de la Terre. D'après celui-ci, le ministre a été distingué pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles le fait d'avoir affaibli l'importance et les compétences de son ministère. Le prix Ropak tire son nom d'une créature imaginaire vivant dans des déchets industriels inventés par le réalisateur tchèque Jan Svierak. La ville de Brno en Moravie se prépare à faire face à une manifestation néo-nazie ce dimanche, défilé qui devrait se dérouler dans un quartier où vit une majorité de Roms. Plusieurs centaines de néo-nazis sont attendus. L'objectif de leur marche est d'après eux de protester contre l'afflux de travailleurs étrangers, mais leurs opposants sont persuadés qu'il s'agit là d'une tentative d'intimider la communauté rome. Une initiative appelée Brno Blocks a vu le jour pour tenter de bloquer de façon non violente le passage du défilé. La municipalité a tenté d'interdire la manifestation, mais un tribunal local a cassé la décision, arguant que cette interdiction n'était pas justifiée. Il y a 2 ans, un défilé similaire s'était déroulé à Brno. La Vénus de Petrushkovetse, une figurine du haut paléolithique dont on estime qu'elle avoisine les 23 000 ans d'âge, sera exposée sur le site d'origine où elle fut découverte, à Ostrava Petrushkovetse. Ce sera ce dimanche, 1er mai, pour une seule journée. La statuette représente le torse d'une femme sans tête et fait 4,6 cm de haut. Réalisée en hématite, elle a été découverte par l'archéologue Bohuslav Klima en juillet 1953. On finit par un mot de météo. Samedi, jour de fête des Blahoslav, le ciel sera dégagé en début de journée, mais avec des risques d'averses et d'orages en seconde partie de journée. Les températures oscilleront entre 17 et 21 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information préparé pour vous par Anna Kubischta.
Faits et événements en République tchèque.
Vous êtes toujours sur Radio Prague à l'écoute du programme en français, un programme dans lequel il sera d'abord question de sport et de musique, de sport d'abord avec du hockey sur glace et le début du championnat du monde ce vendredi soir en Slovaquie, un mondial slovaque où les Tchèques vont tenter de défendre leur titre remporté l'année dernière en Allemagne, et puis de la musique avec le portrait de Maria Tauberova dont on célèbre cette semaine le centenaire de la naissance. Juste après, vous retrouverez Alena Gebertova pour la rubrique bimensuelle du miroir de la société. Le championnat du monde de hockey sur glace 2011 commence ce vendredi et s'achèvera le 15 mai. L'équipe nationale tchèque est l'actuelle titulaire du titre mondial, je vous le disais, un titre qu'elle avait remporté lors de l'édition précédente en Allemagne, alors que certains commentateurs la pensaient affaiblie. Les Tchèques viennent donc chez leurs voisins slovaques avec l'ambition de défendre et de conserver ce titre. Le temps de l'incontestable suprématie tchèque sur le hockey mondial de 1998 à 2001, lors desquels la sélection nationale avait remporté tous les championnats du monde, ainsi qu'une médaille d'or aux Jeux Olympiques, ce temps est bien révolu. Pour autant, les Tchèques ont une réelle opportunité d'inscrire une nouvelle ligne à leur palmarès, comme nous le dit Pierre Maignan.
Chaque année, cette compétition rassemble les 16 meilleures équipes nationales qui s'affrontent tout d'abord dans des matchs de poule. La République tchèque a été placée dans la poule D, un groupe a priori à sa portée, avec la Finlande, le Danemark et la Lettonie. Tomáš Hlinek, le capitaine de la sélection tchèque, confesse que son équipe, si elle ne s'inquiète pas vraiment, a tout de même l'obligation de faire honneur à son statut.
Non, non, nous ne sommes pas vraiment nerveux, mais cette année, nous faisons désormais partie des favoris. L'équipe dont on parle a beaucoup de qualité, donc on verra bien comment tout ça va s'agencer.
Dans les autres groupes, il faudra notamment compter sur le Canada, qui avait pourtant échoué à la 7e place du tournoi l'année dernière, mais qui est détentrice du titre olympique. La Russie, la Suède ou encore les États-Unis défendront également chèrement leur chance. La Slovaquie aura évidemment à cœur de satisfaire son public. Mais une curieuse malédiction touche les pays organisateurs, puisque depuis 1986, aucun d'entre eux n'a réussi à remporter le championnat du monde à domicile. Les matchs de préparation ont donné des résultats mitigés, puisqu'après avoir d'abord battu la Finlande et la Russie, les Tchèques se sont ensuite inclinés contre la Suède, puis finalement contre le Canada. Les Nord-Américains menaient déjà par 4-0 après 26 minutes de jeu. Les Tchèques ont finalement réagi par l'intermédiaire de Martin Havlat en inscrivant 2 buts. Ces matchs amicaux ont cependant permis à l'entraîneur de la sélection tchèque, Alois Adamczyk, de clarifier sa vision de l'équipe. Il a ainsi écarté 3 joueurs, le défenseur Martin Šeftc et les attaquants Michal Vanderka et Martin Ružička, dont les prestations en championnat tchèque, l'Extraliga, avaient pourtant été remarquées. En revanche, il a appelé en sélection Michal Florik, qui évolue en NHL pour la franchise de Chicago. Avec à leur tête l'infatigable et talentueux Jaromír Jágr, âgé de 39 ans, l'équipe tchèque compte pour l'instant 26 joueurs, 3 gardiens, 11 défenseurs et 15 attaquants. Mais en Slovaquie, l'équipe devra être composée au maximum de 25 joueurs. Il reste donc un choix important à faire pour Alois Adamczyk. À noter, et c'est là l'un des reproches adressés à cette compétition, que les joueurs qui participent avec leurs équipes en play-off de la NHL, qui se déroule actuellement, ne peuvent prendre part à ce championnat du monde. Ainsi, l'entraîneur a dû attendre l'issue de la confrontation entre Boston et Montréal pour appeler en sélection un joueur issu de la formation des Fêtes, en l'occurrence Montréal, et à nouveau bouleverser la composition de son équipe. Par ailleurs, la presse tchèque ironisait quelque peu ces derniers jours sur l'équipe française, laquelle a pris par erreur des billets d'avion à destination de Cracovie, au sud de la Pologne. L'équipe a donc dû parcourir en autobus les 300 km qui la séparaient de Košice, ville où elle jouera tous ses matchs. Le maintien dans l'élite est son objectif principal. En effet, les 2 dernières équipes du tournoi sont reléguées dans une division inférieure. Pour les Tchèques, la compétition commence samedi. Ils disputeront leur premier match contre la Lettonie à Bratislava. Beaucoup de supporters tchèques auront à n'en pas douter fait le déplacement pour encourager leur équipe. Le capitaine de la sélection tchèque, Tomáš Hlinek, compte là-dessus.
Je dois dire que nos fans nous ont fait très plaisir l'année dernière en Allemagne. Il suffit de voir comment ils nous ont supportés dans tout le stade. Cela nous a donné beaucoup de courage et de volonté. J'espère que nous retrouverons une telle ambiance en Slovaquie et ce dans tous les stades.
Les 2 semaines à venir vont sans doute passionner une bonne partie des Tchèques, lesquels avaient longtemps célébré la victoire finale des leurs l'année passée.
Après le sport, un peu de musique pour adoucir les mœurs. Il y a un siècle de cela, le 28 avril 1911, naissait Maria Tauberová, une femme qui allait devenir l'une des plus grandes cantatrices tchèques du XXe siècle. Maria Tauberová était probablement une femme heureuse. Ses photos la montrent comme dans un nuage de bonheur, car elle ne s'est jamais départie de son sourire contagieux. Václav Richter revient sur sa vie vouée au chant.
Maria Tauberová souriait à la vie et la vie lui souriait. Son talent s'est imposé spontanément et sans entrave dès sa jeunesse et sa voix saine et radieuse ne l'a jamais trahi durant toute sa longue carrière. Elle est née dans la ville de Vysoké Mýto du plateau tchéco-morave dans une famille tchéco-autrichienne.
Ma mère était originaire de la ville d'Olomouc, en Moravie, et mon père était viennois. Tout ça était l'Autriche. Prague aussi faisait partie de l'Autriche. En 1918, mon père devait être à Vienne, et nous nous sommes donc installés à Vienne.
C'est dans la capitale autrichienne que Maria passe sa jeunesse. C'est dans son académie de musique qu'elle fait ses études de piano puis de chant, études qu'elle poursuivra à Milan. En 1934, elle suit son professeur de chant milanais, Fernando Carpi, à Prague, et de 1936, à l'âge donc de 25 ans, elle chante Gilda dans Rigoletto sur la scène du Théâtre National de Prague. Le metteur en scène Jiří Nekvasil retrace sa vie artistique.
Maria Tauberová était l'une des cantatrices de la célèbre génération du chef d'orchestre Václav Talich. Le chef de l'opéra du Théâtre National, Václav Talich, l'a engagée en tant que soliste après sa première prestation sur scène en 1936. Et elle est restée jusqu'en 1973. Elle a pourtant continué à chanter et n'a décidé de mettre fin à sa carrière lyrique qu'en avril 1976 avec une représentation de l'opéra Les Deux Veuves de Bedřich Smetana dans lequel elle campait le rôle de Carolina.
Maria s'est sans doute glissée sans problème dans la peau de Carolina, femme énergique et émancipée qui sait jouir de la vie et rendre heureux les gens de son entourage. C'était le rôle préféré de Maria Tauberová, car il convenait non seulement à son tempérament, mais lui donnait aussi la possibilité de mettre en valeur sa virtuosité vocale. Maria Tauberová a cependant incarné avec succès toute une série d'autres héroïnes du répertoire tchèque et mondial. L'agilité prodigieuse de sa voix et son talent de comédienne l'a prédestinée aux opéras de Mozart. Elle a donc excellé comme Susanna des Noces de Figaro ou la Reine de la Nuit de la Flûte Enchantée, mais a été très applaudie aussi dans des rôles plus dramatiques. Elle a été une émouvante Violetta de la Traviata de Verdi, une ravissante Rosina dans le Barbier de Séville de Rossini, une étonnante Renarde dans La Petite Renarde de Rusée de Janáček, une fantastique Olympia dans Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach et une séduisante Zerbinetta dans Ariane à Naxos de Strauss. Au cours de sa carrière, Maria Tauberová a incarné une cinquantaine de personnages féminins et les a tous marqués de son talent, de son tempérament et de son sens de l'humour. Le théâtre lyrique a non seulement comblé ses ambitions artistiques, mais lui a aussi donné l'homme de sa vie. À 90 ans, Maria Tauberová se souvenait encore de sa première rencontre avec le chef d'orchestre Jaroslav Kromholtz.
Nous nous sommes rencontrés ici à Prague, au Théâtre National, et nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Nous étions jeunes et nous nous sommes mariés en 1945. Nous avons vécu ensemble pendant 40 ans. Souvent, quand nous revenions d'une tournée, il me disait « On rentre à la maison ».
La vie de Maria Tauberová était longue. Elle s'est éteinte en 2003 à l'âge de 92 ans. En 1995, elle a obtenu le prix Tali pour l'ensemble de son œuvre. Elle avait alors remarqué avec son humour habituel. « Je savais un peu chanter, mais je ne pouvais pas enseigner le chant. Je n'y entends rien. Quand mes collègues parlaient de respiration et d'autres aspects de la technique vocale, cela m'était complètement étranger. Je ne faisais qu'ouvrir la bouche et chanter. »
Comme le veut la tradition à l'occasion des fêtes de Pâques, plusieurs médias nationaux ont donné la parole à l'archevêque de Prague et prima tchèque Dominik Duka. Alena Gebertová a choisi l'entretien qu'il a accordé au supplément du quotidien Hospodářské noviny pour vous en présenter quelques extraits dans le miroir de la société. Elle a également retenu quelques réactions à la situation politique dans le pays, la situation marquée, vous le savez, par la crise qui a secoué tout récemment la coalition gouvernementale au pouvoir. C'est le miroir de la société, tout de suite sur Radio Prague.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
$1,2 milliard de chrétiens de par le monde. Ce chiffre démontre, d'après l'archevêque Dominik Duka, que le nombre de chrétiens n'a cessé d'augmenter de façon marquante au cours des dernières décennies. Toutefois, l'Europe, et en particulier notre pays, sont confrontés à une tendance inverse. Dominik Duka explique.
Chez nous, le fléchissement du nombre de chrétiens découle de notre histoire négative. Dans les années 1920, la fondation de l'église tchécoslovaque, devenue plus tard l'église hussite, a retiré à l'église catholique 20% de la population tchèque. L'expulsion de la population allemande après la Deuxième Guerre mondiale et deux vagues d'émigration en 1948 et en 1968 ont fait également perdre au pays beaucoup de croyants et de prêtres. À noter aussi que des centaines de prêtres, de religieux et de religieuses ont été mis en prison, notamment dans les années 1950.
Ces événements et l'athéisation imposée par le régime communiste sont alors la cause principale de l'état actuel où un tiers seulement de la population tchèque déclare son appartenance à l'Église catholique. Dominique Duka compare sa situation à celle de la ville de Dresde après le bombardement.
Pendant les 20 dernières années, nous recommençons à zéro. L'Église en tant qu'institution a été dévastée et il nous faut reconstruire une belle ville à la base des épaves qui nous restent.
Plus loin, l'archevêque de Prague met cette situation dans un plus large contexte en disant
« Le christianisme doit dès lors reformuler ses idées et ses principes de base pour qu'ils soient compréhensibles à l'homme d'aujourd'hui. Nous nous trouvons dans une époque où la civilisation euro-américaine arrive à son bout pour donner lieu à une nouvelle civilisation. L'Empire romain fini, il faut bâtir une nouvelle Europe. »
Les relations entre l'islam et les chrétiens, voilà le problème qui est également soulevé dans l'entretien accordé par Dominique Duka au supplément de Hospodarske Noviny et dans lequel il dit, nous citons.
Le conflit de civilisation dont parle Huntington existe réellement, mais il faut se demander pourquoi, conçu radicalement, l'islam implique le phénomène de l'expansion. Ceci dit, les événements dont nous sommes ces derniers temps les témoins n'ont rien à voir avec son essence. Les attaques meurtrières autodestructrices ne sont pas une invention de l'islam, mais elles traduisent l'influence des idées totalitaires européennes, qu'il s'agisse du nazisme ou du communisme. Le manque de perspicacité des leaders européens et américains y joue aussi un certain rôle.
Au sujet des attaques dirigées contre les chrétiens dans certains pays musulmans, Dominique Duka constate.
La civilisation euro-américaine doit comprendre que si nous abandonnons les chrétiens dans le monde arabe à leur sort, elle risque que la situation dans nos pays respectifs devienne tôt ou tard incontrôlable.
Le journaliste Karel Richter, auteur du très connu Interrogatoire à distance, livre d'entretiens réalisés sous le régime communiste avec Václav Havel, consacre un de ses récents commentaires publiés sur le serveur aktualnie.cz au 20e anniversaire du Parti civique démocrate, ODS. Une occasion pour lui de s'interroger non seulement sur le parcours de ce principal parti de droite dans le pays, actuellement au pouvoir, qui avait été fondé par l'actuel président de la République Václav Klaus, mais aussi de réfléchir sur la situation et le climat dans la société tchèque d'aujourd'hui.
Les différentes étapes de l'existence de l'ODS, telles qu'elles sont décrites dans cet article, illustrent en même temps les différentes étapes de l'évolution de la société tchèque après la chute du régime communiste. Son auteur prête une attention particulière à la deuxième moitié des années 1990, époque marquée par un certain dégrisement de la population survenu après les premières années post-révolutionnaires euphoriques. L'époque où les gens ont commencé à réaliser que les violations de la loi n'étaient pas toujours poursuivies et sanctionnées comme il l'aurait fallu. Il écrit
« Dès la chute du régime communiste, la justice ne parvenait pas à suivre le pas des transformations de l'économie. Václav Klaus l'a bien voulu pour pouvoir réaliser rapidement la privatisation et pour faire naître, à l'instar de la vieille Europe, une classe moyenne suffisamment riche. Hélas, il n'en a rien été. Il y a des gens qui se sont très enrichis, il est vrai, mais c'était notamment les anciennes élites et les imposteurs, pas la classe moyenne. » Cette époque-là peut donc être caractérisée comme le début de la privatisation de la politique. L'insolence ostentatoire des nouveaux hommes d'affaires riches et l'arrogance dont politiques sont devenues source de déception et d'irritation de la population.
La dernière étape de l'ODS, donc l'étape actuelle qui a commencé avec l'investiture du gouvernement de coalition de Petr Nečas en juin 2010, est décrite comme suit.
On peut caractériser cette période comme celle d'une désillusion générale et profonde des citoyens face à la politique. Les gens se déclarent décidés de ne plus aller aux urnes et de ne plus croire le bien fondé des réformes en cours, dont ils ne comprennent d'ailleurs point le contenu et le sens. Les gens se détournent avec dégoût de la politique. Leur méfiance à l'égard des hommes politiques est presque aussi grande qu'avant 1989.
Ce regard sceptique sur le climat au sein de la société tchèque est partagé aussi par Martin Fendrich du populaire hebdomadaire Týden. Dans un commentaire publié au lendemain du vote sur la motion de censure qui s'est tenue cette semaine à la Chambre des députés et auquel la coalition tripartite est dirigée par Petr Nečas a résisté, il écrit
« La majorité des députés ont soutenu un gouvernement au sein duquel on trouve les gens liés à l'agence de sécurité Abel par laquelle le scandale est arrivé. » Les ministres que le Premier ministre avait auparavant caractérisés comme peu compétents. Donner la confiance à ce gouvernement signifie en fait donner la confiance au business qui s'empare au fur et à mesure de la politique. Pour la Tchéquie, la méfiance aurait été saine. Les élections anticipées signifieraient une solution claire, peu confortable et chère. Mais la démocratie est effectivement chère et peu confortable.
Certains commentaires apparus ces derniers jours saluent en revanche le fait que le Premier ministre, Petr Nečas, ait fait preuve de volonté de compromis, sauvant son gouvernement et ainsi donc les réformes préparées. Ils avouent en même temps que ce compromis ne saurait exclure l'éclatement dans un proche avenir d'un nouveau scandale et d'une nouvelle crise gouvernementale.
Depuis la création de la République tchèque indépendante, le vote sur la motion de censure a été soumis à 8 reprises. Il a été notamment soumis 5 fois sous le gouvernement de Mirek Topolánek. Tandis que 4 votes ne sont pas parvenus à renverser son cabinet, celui-ci a quand même chuté à l'issue du 5e vote, qui a été soumis par le Parti social-démocrate au printemps 2009, au milieu de la première présidence tchèque de l'Union européenne.
Même si l'actuel gouvernement tripartite de centre-droit de Petr Nečas a survécu cette semaine au vote sur la motion de censure, il n'en demeure pas moins vrai que sa cote aux yeux du public est très basse. À en croire le dernier sondage de l'agence CVVM, seulement 21% des personnes interrogées lui font en effet actuellement confiance. Près de 2/3 d'entre elles se déclarent également mécontentes de la situation politique dans le pays.
Une situation très différente de celle qui existait dans le pays il y a un an encore, où le gouvernement de technocrates dirigé par Jan Fischer jouissait de la confiance de la grande majorité de la population.
Merci à Alena Gébertova pour cette nouvelle édition du Miroir de la Société à la lumière de la presse. Et c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve bientôt. Surtout, n'oubliez pas, n'écoutez jamais autre chose que Radio Prague. C'est sur internet www.radio.cz.